Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appli Rire et Chanson. Des milliers de sketchs en streaming, sans limite, gratuitement, sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson.
Le journal du rire, l'intégrale, spécial Kev Adams.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du journal du rire. Il y a quelques jours, nous recevions une star du rire qui était venue nous présenter Miroir, son 6e spectacle. Un one-man show très drôle, très personnel, dans lequel il s'intéresse entre autres à son image. Kev Adams était mon invité. Si vous avez raté ce rendez-vous, voici tout de suite l'intégrale en podcast. Salut Kev.
Salut Guillaume, mais salut à tous les auditeurs. Voilà, t'as vu le mot auditeur, il est pas venu.
Il est mal passé.
Les auditeurs de Rire et Chanson, bien sûr.
Bon, très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le journal du Rire. On va passer cette semaine ensemble, Kev, pour parler de Miroir. C'est ton tout nouveau spectacle qui sera à l'affiche du Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. Ça approche.
Exactement.
C'est la semaine prochaine. C'est ton 6e spectacle, un one-man show drôle, très sincère et encore plus personnel que les précédents. Alors, il s'appelle Miroir. Sur l'affiche, on voit justement un miroir brisé en fond. Ce miroir, cet objet, il évoque quoi chez toi ?
Voilà, beaucoup de choses, mais en fait, tout est parti d'un point de départ assez simple, qui est que moi, j'ai du mal avec mon image, avec ce que je représente aujourd'hui. Et après 6 spectacles, je me suis dit que j'avais envie de parler comme je parle dans la vie. Et c'est ce que je fais dans ce spectacle. J'exprime plein de sujets que je m'interdisais peut-être jusqu'à maintenant, une manière de parler que je m'interdisais aussi peut-être jusqu'à maintenant pour garder le côté mainstream. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'être moi-même sur scène et donc je brise aussi une forme de miroir qu'il y a entre moi et les spectateurs, une forme d'écran, d'où l'idée de cette affiche et de ce titre aussi. L'idée, c'est voilà, d'expliquer pourquoi j'ai du mal avec mon image. Donc il y a une espèce d'introspection qui évidemment touche à plein d'éléments qui touchent la vie de tout le monde. Donc c'est une grande observation du quotidien dans une première partie de spectacle. Et dans une seconde partie, il y a aussi ce côté, j'ai décidé d'être vraiment moi-même et de vous montrer la personne que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc il y a une représentation avec des sujets abordés que j'aurais jamais pu penser aborder dans des spectacles précédents où il y a quelques
années. C'est-à-dire que ce spectacle, le propos que tu tiens sur scène aujourd'hui, c'est quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pu faire il y a 10 ans.
Ah, c'est une évidence.
Ouais.
C'est une évidence. Le ton, la liberté que j'emploie, les thèmes abordés. Je parle de harcèlement scolaire. Je parle du divorce de mes parents avec beaucoup de liberté. En fait, j'essaie d'expliquer pourquoi je suis celui que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous faits de nos traumatismes d'enfance. Et donc, évidemment, je parle de mes relations aux femmes. Et je dis que j'ai grandi avec des parents qui se sont foutus sur la gueule toute ma vie, tu vois. Donc, forcément, j'ai pas eu le bon exemple de l'amour, quoi, tu vois. Puis ensuite, j'explique que si j'ai du mal avec mon image, c'est parce que quand j'étais petit, j'étais en surpoids et souvent moqué à l'école. Donc, j'évoque le harcèlement scolaire qui est malheureusement un sujet terriblement d'actualité. Et puis ensuite, je parle évidemment de mes angoisses de l'avenir. Donc, ça parle sur l'écologie, sur la guerre, sur malheureusement tous les problèmes qu'on vit en ce moment en France et avec les nombreuses révoltes qu'on connaît et tout ça. Donc voilà, j'essaye de surfer sur le passé, le présent et l'avenir.
Dans ce spectacle, tu parles beaucoup du rapport que tu as avec ton image. T'es d'ailleurs pas toujours très tendre, j'ai noté avec toi. Il y a eu un truc particulier, un élément déclencheur pour te pencher sur cette question.
Plein de choses. Ça va bientôt faire 15 ans que je fais ce métier. J'ai commencé très très jeune. J'ai commencé à faire des blagues, j'avais 17 ans. Je faisais des blagues de mecs de 17 ans. J'avais envie de faire rire ceux qui avaient 17 ans comme moi. Et puis je me suis rendu compte très vite, à l'âge de 22-23 ans, que bon, bah, c'était la case à défendre, ça y est, c'était la mienne. Maintenant, il fallait que je défende cette case-là. Et donc, je me suis prêté au jeu. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai 57 ans, je me dis, il est temps, tu vois, de me représenter, de montrer une autre image. Et surtout, j'ai pas envie de jouer le rôle de l'ado toute ma vie. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de parler de sujets qui me touchent. Et donc, dans ce spectacle, je parle évidemment de sujets de trentenaire, à savoir les relations amoureuses, la complication de trouver la bonne personne. Dans cette époque, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de stress de se marier, d'avoir des enfants pour toute une génération, parce qu'on a eu des parents qui l'ont fait assez jeune. Et nous, d'un coup, on se retrouve à 35-40 piges, un peu perdu, en mode, est-ce que c'est maintenant que je dois le faire ou pas ou quoi ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en avoir ? Enfin, donc il y a toute une interrogation là-dessus. Et puis il y a évidemment une interrogation sur d'autres sujets que j'aurais jamais abordé avant. J'ai un sketch qui dure 13 minutes sur mon rapport à l'alcool. Autant te dire que j'aurais jamais fait ces sketchs-là. Il y a deux spectacles de ça, tu vois. Et aujourd'hui, je me suis dit, écoute, c'est peut-être un risque à prendre. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui décrocheront et qui adoraient mon humour jusqu'à présent. Et peut-être que d'autres, au contraire, nous rejoindront en route. Mais moi, j'ai envie d'être vrai. J'ai toujours été vrai sur scène. J'ai toujours donné ce que j'avais dans le bide. À l'époque où j'avais 20 ans, je parlais de sujets de mecs de 20 ans. Quand j'en ai 24, c'était pareil. Et aujourd'hui, j'en ai 31 et j'ai envie de parler de sujets de mecs de 31 ans, quoi.
Là, c'est un vrai virage aussi que tu prends, que tu avais déjà amorcé d'ailleurs avec le précédent spectacle.
Avec le Netflix,
sur le soi-disant
ou même dans le
avec soi-disant déjà t'as raison, mais c'était soi-disant, je trouvais était le bon entre deux. Il y avait un côté quand même très mainstream, il y avait un côté très jeu d'enfant, beaucoup de lumière, beaucoup de musique, beaucoup de chansons, et d'un coup il y a eu le Netflix qui pour le coup était beaucoup plus sec, on va dire, beaucoup plus stand-up, et aujourd'hui on a celui-là qui est vraiment je pense le spectacle qui me correspond le plus aujourd'hui, avec de la vanne sèche comme moi j'aime faire, j'aime que ça envoie à fond du rire et des histoires beaucoup plus sincères. Et puis je parle de moi comme je pense j'en ai jamais parlé avant.
Ouais. Il y a beaucoup d'autodérision dans ce spectacle.
Énormément, principalement de moi.
J'irais même, t'es vache avec toi-même.
Ouais, mais je crois que c'est le principe d'un humoriste. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être non seulement, je crois que c'est toujours plus difficile de rire de soi que de rire des autres. Donc je trouve que l'exercice de rire de soi est important. Et puis moi, j'ai hyper conscience de ce que je peux représenter vis-à-vis de ceux qui m'adorent et vis-à-vis de ceux qui me détestent. Tu comprends ? Et donc quand t'es conscient de ça, bah tu te dis, je vais jouer avec. Sinon, c'est pas marrant. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a des gens qui te disent. Enfin, moi, je suis quand même un des rares humoristes qui a des gens qui te disent, moi, je peux pas lui. Lui, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ça, t'es obligé d'en parler. Si t'en parles pas toi, il y a presque, ça montrerait presque un côté déconnecté de la réalité, tu vois. Et moi, j'aime bien être ancré dans un vrai truc. Et j'aime bien d'ailleurs le fait qu'il y ait des gens qui me détestent parfois même sans le savoir. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ont de très bons arguments. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était important de me moquer de moi-même pour aller dans le sens de tout le monde. Je pense que ceux qui m'adorent attendent que je ris de moi. Et je pense que ceux qui me détestent seraient surpris de voir à quel point je vais loin. Quand je m'auto-clash, quoi, si tu préfères.
Ce problème d'image a toujours été présent en toi depuis l'enfance ?
Ouais, depuis l'enfance, je pense que de toute manière, quand tu fais ce métier, quand t'es suffisamment barge pour aller te mettre sur scène devant 5000 personnes et être suffisamment prétentieux pour te dire « je pense que je peux faire rire tout le monde pendant 2 heures », je pense que de base, t'as un grain dans la tête, on va pas se mentir. Ouais, ouais. C'est pas un métier normal, c'est pas un truc de quelqu'un qui est bien dans sa peau ou bien dans sa tête, c'est un métier de gens qui ont des choses à prouver, qui ont des choses à régler, ça c'est une évidence.
Mais quand on remplit des salles comme des Zéniths ou encore des salles comme tu as fait le week-end dernier à Bruxelles, quand on remplit ces salles, quand on a été la star des ados, ça parvient à rassurer ou pas ça ?
Bien sûr que ça rassure et puis ça émeut beaucoup. Moi j'étais très ému la semaine dernière à Bruxelles quand tu vois que 6000 personnes viennent 14 ans après le début pour un 6e spectacle à 31 ans. C'est fou pour moi. On m'a toujours promis une carrière courte, tu sais. Il y a beaucoup de journalistes, de journaux qui disaient lui c'est le boys band des ados quoi, tu vois, il va faire un grand tour comme les To Be Free puis il s'en ira quoi, tu vois. Et donc 14 ans plus tard de pouvoir voir pour ce spectacle des salles aussi blindées, c'est extraordinaire. Et en même temps
c'est une belle revanche aussi.
Et en même temps j'ai l'impression que j'ai bossé pour, tu vois, c'est-à-dire je suis hyper ému, hyper heureux, je prends pas ça pour acquis, mais je suis sans cesse dans une remise en question depuis 14 ans. Il y a jamais un seul moment où je me suis dit c'est bon maintenant c'est fait, t'as gagné, c'est le public est dans la poche. Et je pense que c'est grâce au fait que justement je divise depuis des années, le fait que j'ai des gens qui m'aiment autant que de gens qui me détestent, et ben ça me force chaque année, chaque 1er janvier de l'année à me dire OK, allez, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer, tu vois, d'aller chercher ceux qui doutent encore. Et en fait, c'est hyper sain. C'est génial parce que tu t'endors jamais sur tes lauriers, t'es tout le temps dans l'action, quoi, tu vois.
Qu'est-ce qui t'a motivé, Kev, à l'époque, à vouloir monter sur scène, à faire ce métier ?
Très bonne question, je dirais les femmes, bien sûr, avant tout. C'est vrai, un mal-être, une envie de séduire. J'ai rapidement compris quand j'étais tout petit que c'est pas avec mon physique que j'allais pécho, tu vois. Et donc,
tu voulais être aimé, donc ?
Ouais, bien sûr, mais attends, de toute façon, quand tu fais artiste, il y a une volonté d'être aimé très forte. Donc, il y avait ça, et puis il y avait aussi l'envie d'être libre. Je me disais, j'ai envie de gérer mon truc comme j'ai envie d'être mon propre chef d'orchestre, tu vois, et d'arriver à faire mes petites blagues, à les concocter dans mon coin et à les proposer au public après. Il y avait un côté très artisanal qui m'intéressait là-dedans surtout.
T'as dit dans une récente interview que tu n'avais jamais caché, justement, c'est ce que tu racontes aujourd'hui, ta volonté de vouloir plaire, de vouloir séduire tout le monde finalement, sans pour autant être jamais vraiment toi-même.
C'est vrai.
Qui est le vrai Kev alors finalement aujourd'hui ?
C'est vraiment celui que je monte dans ce spectacle parce que justement mais je vais vraiment pas du tout parler de moi à la troisième personne. En fait, je parle justement de ça et de mes faiblesses. Et je pense que tu n'es vraiment que toi-même quand tu avoues tes faiblesses et que tu dis voilà ce qui déconne chez moi. Et je le dis dans le spectacle, je dis ce qui déconne chez moi, c'est que je suis jamais vraiment moi-même parce que je veux constamment plaire à la personne qui est en face de moi. Et donc si je sens dans tes yeux que si je vais dans ce chemin-là, ça va te plaire, bah je vais y aller. Mais en sortant de l'émission ou en sortant d'une conversation, parfois je me dis mais je suis pas ce gars-là du tout moi. C'est pas vrai. Tu vois ? Si t'as un gars qui arrive comme ça et qui me dit putain, t'as eu le PSG hier, ils nous ont déçus. Moi, je vais être en mode putain, tellement. Putain, mais qu'est-ce qu'on vit cette saison ? Alors qu'en vrai, je pourrais très bien dire la même chose à un supporter de l'OM ou de l'OL dans la même journée. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a ce côté, qu'est-ce que je peux te dire pour te séduire? Et en fait, c'est épuisant et c'est devenu presque un réflexe chez moi. C'est-à-dire que je suis jamais vraiment moi-même. Il y a des fois des gens, j'ai envie d'aller leur dire, d'aller se faire foutre, tu sais.
Tu veux tout contrôler.
Et en fait, comme j'ai envie de leur plaire, je vais leur dire, mais je suis totalement d'accord avec toi, quoi, tu vois. Et c'est terrible. Et donc, j'en parle dans le spectacle avec évidemment plein de vannes. Mais je dis que je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à me voir dans le miroir, c'est que je ne sais pas qui est le vrai moi, puisqu'en réalité, je suis tout le temps dans une espèce de séduction malsaine, relou, quoi.
Et quelle importance tu accordes à ton image aujourd'hui ?
Beaucoup moins importante qu'à une époque.
Ouais.
Ouais, ouais, je suis un peu en mode, je suis en lâcher prise un peu en ce moment. Je suis un peu en mode, bon allez, on y va. De toute façon, t'es ce que t'es, quoi. Tu vois, tu vas pas réussir à changer, gars. C'est comme ça. Donc, on y va.
Mais c'était plus compliqué avant à gérer.
Ben ouais, et puis moi j'ai vécu la fin de l'adolescence avec le début de la notoriété et tout. C'était particulier, tu vois. T'es scruté, t'es épié. D'un coup, les gens ils veulent avoir un morceau de toi, tu vois. Et toi, en même temps, tu sais pas vraiment qui t'es non plus. Donc il y a un côté particulier, quoi. Tu vois, c'est étrange de la notoriété, c'est un truc qui est étrange. Et en même temps, le passage à l'âge adulte, c'est un truc qui est étrange. Et si tu mixes les deux. Bah, ça fait un grand truc étrange, quoi. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu.
Alors, Kev, le spectacle est vraiment dans l'air du temps et on apprend d'ailleurs plein de choses sur toi. Tu parles de sujets comme le harcèlement scolaire que t'as vécu. On te sent d'ailleurs encore marqué aujourd'hui par, par ces moqueries que t'as subies. T'as pardonné?
Ouais, bien sûr, j'ai pardonné. Bien sûr, j'ai avancé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prends le temps d'en parler aujourd'hui. Mais parce que ça fait mal. Parce que quand t'es un môme de 14-15 ans et que t'as d'autres mômes de 14-15 ans qui te disent toi t'es le gros, tu resteras le gros, et que t'as même des meufs qui sont même pas méchantes mais qui disent mais tu viens avec nous à la piscine le gros, bah d'un coup tu te dis mais putain, mais c'est terrible en fait. Même si t'en rigoles avec eux à 14-15 ans, ou le boutonneux, ou le chemin de fer pour l'appareil dentaire, c'est des mots qui ont un impact réel. C'est des mots qui font que quand tu te réveilles plus tard, eh ben tu deviens l'adulte avec toute la rancœur et parfois toutes ces frustrations là d'enfance aussi. Et donc ouais, j'avais envie de faire un sketch pour en parler, surtout parce que j'ai l'impression qu'à mon époque, ça allait. Tu sais, je me faisais moquer à l'école, je rentrais chez moi, j'étais tranquille, les vacances, j'étais tranquille, personne me prenait la tête, quoi.
C'est plus violent aujourd'hui évidemment, avec les réseaux sociaux.
C'est l'enfer, les mômes, ils se font poursuivre non-stop jusqu'à craquer. On l'a bien vu ces dernières années, le nombre de problèmes qu'il y a eu à cause du harcèlement scolaire, ça devient délirant. Et donc, je pense que c'est aussi une responsabilité publique, quand t'as la chance de t'adresser à des milliers de personnes tous les soirs, de parler de sujets qui te touchent. Et moi, ça me touche directement. J'ai un frère qui va avoir 17 ans cette année, tu vois, qui est en plein dedans, en plein dans cette nouvelle génération qui est violente, qui est virulente, tu vois. Et je me dis, faut en parler, quoi. Faut en parler. Il faut exprimer le sujet pour les jeunes qui viennent encore dans mes salles, mais aussi pour leurs parents, pour leurs grands frères, pour leurs grandes sœurs, tu vois, qui puissent être sensibilisés à ce sujet qui est beaucoup plus important et grave que ce qu'on pourrait croire.
Miroir, c'est le nouveau spectacle de Kev Adams à découvrir les 17, 18 et 19 avril au Dôme de Paris. Alors Kev, il y a la scène, il y a aussi le cinéma qui occupe une grande place dans ta carrière, évidemment. J'ai comme le sentiment, malgré tout, que tu te fais désormais peut-être plus discret, plus rare au cinéma.
Ouais, ouais, ouais. J'essaye en tout cas de choisir à fond les projets qui me font vraiment kiffer. J'ai la chance d'avoir plein de choses à faire à côté, tu vois. Donc quand je vais au ciné, j'ai envie de le faire pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est une histoire qui te botte à fond et qui te donne très envie. Et donc voilà. Ma dernière occurrence au cinéma, c'était l'année dernière dans
Maison de retraite.
Tout à fait.
Alors justement, plus de 2 millions de spectateurs en salle, ça a été un énorme succès. Pourtant, je crois que ça a été un des projets les plus complexes, tu le disais une fois, à monter.
Ah, ça a été l'enfer. L'enfer, l'enfer. On a payé le film de nos poches, dis-nous, parce qu'il y a évidemment ma boîte de production, mais aussi Stan Wawrinka, le tennisman, qui nous a rejoint là-dessus, et on a payé le film, nous, quoi, avec notre argent de poche à nous. C'était un challenge monumental. Si le film marchait pas, on fermait notre boîte de production. Moi, c'est le premier film que j'écris en tant que scénariste, donc c'était un gros challenge aussi pour moi. Donc toutes ces choses-là ont fait que ça a rendu le challenge encore plus fou, encore plus grand. Et effectivement, personne n'y croyait. Le monde entier du cinéma, ce qu'on appelle le monde du cinéma, tu vois, les financiers, les producteurs nous ont tous promis un échec cuisant, ouais. En disant mais ce film-là, ça ne touchera personne. Kev, ça touche les jeunes, puisque évidemment dans la tête de plein de gens, on est encore en 2012, et donc je suis toujours l'humoriste des ados, tu vois. Donc Kev, ça touche les jeunes, les personnes âgées, ça touche les personnes âgées. Au final, personne n'ira. Et j'ai beaucoup entendu ça, et on a été au bout de nos convictions, et on s'est battu pour défendre ce film. Et je le regrette pas, puisqu'effectivement, ça a été un...
Ouais, ça a marché très fort. Il y a une suite qui est toujours en cours de préparation.
Il y a une suite dont le tournage démarre d'ici quelques jours, tout à fait.
Ah ouais?
À l'issue de la tournée, de cette première phase de tournée de Miroir, on démarre le tournage de Maison de Retraite 2, ouais.
Le casting sera le même? Ou
alors, il y a une partie des acteurs qui sont les mêmes, et il y a une autre partie des acteurs qui sont des nouveaux. Et qui sont incroyables, donc je suis trop content forcément.
Kev, t'as depuis quelques temps maintenant ton comedy club dans Paris, ça s'appelle Le Fridge. Alors chaque soir tu accueilles des nouveaux humoristes, totalement inconnus pour la plupart. Ils viennent tester, essayer, rôder comme on dit dans notre jargon. Quel regard toi tu portes sur cette nouvelle génération d'artistes ?
très bienveillant, très heureux qu'il y ait de plus en plus de comedy club et de plus en plus d'opportunités justement pour ces jeunes.
Et de plus en plus d'humoristes aussi.
Et de plus en plus d'humoristes, bien sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est comme dans tout, je crois qu'il y a plusieurs ligues et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde dans toutes les ligues. Et qu'à un moment donné, bah voilà, c'est ceux qui travailleront le plus, qui se démarqueront le plus, qui auront leur place demain sur Rire et Chanson, typiquement. Et c'est pas évident parfois d'arbitrer tout ça, c'est pas évident parfois d'être dans les coulisses de tout ça. Maintenant, pour moi, le Fridge est un outil exceptionnel. On l'utilise tous, hein, c'est pas seulement les jeunes talents. Moi, j'y vais régulièrement pour tester des sketchs. Gad y va régulièrement. On a plein de potes qui y vont, Nawel Madani, entre autres. Tu vois, on a la chance d'avoir plein de stars de l'humour.
Ouais, c'est un vrai labo, quoi.
Qui vont tester là-bas. Plus, évidemment, une jeune génération, plein d'humoristes qui sont en devenir. Plus encore des très, très jeunes qui démarrent à peine. Et je trouve ça fou d'avoir un lieu qui réunit tout ça, justement, et qui devient cette espèce de confluence, comme ça, de l'humour, quoi.
La scène, le cinéma, le Fridge, et puis la télévision, te retrouvera ce soir sur TF1 pour la 5e saison de Masked Singer. Pourquoi avoir accepté à l'époque, à la base, cette émission, Kev, en quelques mots?
Bah, ça m'amusait. J'avais vu deux fois l'émission aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un show monumental avec des costumes incroyables, etc. Et ils m'ont dit, on va faire exactement la même chose en France. Et je me suis dit, putain, je me suis éclaté en regardant cette émission aux US. Et donc, ça me ferait kiffer d'y participer. Et puis, moi, j'aime bien toucher à tout, goûter à tout. Et donc, forcément, j'avais fait du ciné, j'avais fait de la télé, j'avais fait de la série. J'avais jamais fait de ce qu'on appelle du flux, tu vois, de l'émission de télé de variété, quoi. Et je me suis dit, bah, si, ça peut être une bonne expérience, quoi. Donc ça, c'est la raison qui m'a donné envie d'y aller.
Tu y as pris goût, visiblement, puisque tu es toujours là, 5 ans plus tard.
J'aime bien, j'ai l'impression de faire partie un peu d'une famille, maintenant, dans ce truc-là. Et je m'entends particulièrement bien avec Camille Combal, qui est vraiment devenu un pote au fur et à mesure des saisons. Et aujourd'hui, j'ai envie, quand j'y vais, c'est aussi pour me marrer avec lui, quoi.
Miroir, c'est ton nouveau spectacle à découvrir donc la semaine prochaine, les 17, 18 et 19 avril, au Dôme de Paris. J'étais ravi de passer cette semaine avec toi. Mais vraiment.
Tu plaisantes, Guillaume, c'est moi qui étais ravi de passer cette semaine avec vous sur Rire et Chanson. Bisous! Rire et Chanson.